Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle. On est donc avec Latifa qui est peut-être surprise également de que ce type de panne puisse arriver. On rappelle qu'hier soir, on n'a pas pu joindre, certaines régions n'ont pas pu joindre les 15, 17, 18, 112. Latifa.
Oui, en fait, je suis extrêmement choquée parce que je pensais que notre système reposait sur autre chose que une fausse erreur de ce que j'ai compris ce matin. C'était a priori une erreur de manipulation pendant une opération de maintenance. Donc ça fait très peur de se dire que finalement une opération de maintenance et hop, on a toute la France qui est paralysée. Il neige, la France est paralysée, mais là c'est beaucoup plus grave puisqu'a priori on a quand même des patients qui n'ont pas pu joindre le SAMU et qui sont peut-être décédés à cause de ça. Donc c'est très 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 préoccupant. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est se dire qu'en fait, effectivement, c'est la première fois que ça arrive, mais personne n'avait jamais pensé à un plan B. Qu'est-ce qui se passe si on peut pas joindre le 15, le 18? En général, si on peut pas joindre le 15, les gens, quand ils s'impatientent, ils font le 18, ou ils font même parfois le 17. Mais là, quand on a tout qui plante, qu'est-ce qu'on fait? Donc, hier, c'était un peu la panique, sachant qu'en plus, ça tombait au plus mal, parce que c'est le soir où vers 19h, il y a un pic d'appels sur ce genre de plateforme. Donc, devoir donner des numéros, des services d'urgence, les gens devaient appeler directement à l'hôpital. Enfin, c'est assez préoccupant.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas? C'est ça maintenant la question. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place?
Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et même aller encore plus, parce que ça peut arriver, ça arrivait aujourd'hui. Ça peut arriver encore demain. D'ailleurs, la situation n'est pas tout à fait stabilisée au moment où on parle, hein. Il y a encore certains départements qui sont impactés. Donc, c'est aussi se dire qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois si ça se reproduit.
Bah, bien sûr. Bah, écoutez, je n'ai pas forcément la réponse à cette question.
Non plus.
Le ministère. Ce qui est intéressant, c'est la réaction quand même des autorités. On est très préoccupés, a dit Emmanuel Macron. Il l'a dit tout de suite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fustigé des dysfonctionnements graves et inacceptables. Et notamment dans le qui pourrait avoir causé la mort de 3 personnes dans le Morbihan et à La Réunion.
Et 2 à La Réunion, a priori. Ouais.
Et en même temps, ce qu'on peut se dire, ce qu'on doit se dire, c'est que nul système, Latifa, est à 100%
est infaillible. Oui, c'est ça. Nul mais c'est justement se dire que OK, les systèmes ne sont pas infaillibles, parce que là, c'est une panne de maintenance. Mais demain, ça peut être un piratage.
Alors vous avez raison. Mais vous savez qu'il y a des il y a des piratages qui peuvent être terribles. J'avais vu des piratages par exemple sur l'eau dans des grandes villes. Vous entrez dans des systèmes où vous polluez l'eau dans des grandes villes. Je crois qu'on en avait parlé un matin sur RTL il y a 3-4 mois de cela. Ça m'avait frappé parce que tout est possible en fait. Tout est possible et parfois le pire.
C'est ça. Mais maintenant, profiter entre guillemets de cette situation qui est vraiment inédite et se dire voilà, si ça doit se reproduire et on n'est pas à l'abri, que ce soit un problème de maintenance comme là a priori c'est stipulé ou un piratage, qu'est-ce qu'on fait? Quelle alternative ont les patients? Quel numéro ils peuvent contacter?
Bien sûr.
Parce que hier c'était sur les réseaux sociaux, donc les sites préfectoraux envoyaient des numéros, mais la plupart des gens ils n'ont pas tous un smartphone, ils n'ont pas accès à ce genre d'informations, donc ça ne devrait pas être évident. Et effectivement, ça a peut-être au jour d'aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt, mais ça a sûrement dû avoir des conséquences. On ne connaît pas au jour d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Latifa. Merci. On va marquer une première pause. Je salue Greg Caradoni.
Bonjour à tous.
Avec nous. Merci d'être avec nous, cher Greg. Nous allons marquer une pause, peut-être.
Absolument.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous êtes nombreux à réagir à cette panne chez l'opérateur Orange qui a fortement perturbé les numéros de secours hier soir dans toute la France. Le 15, 17, 18, 112. Il est trop tôt pour faire un bilan, mais on est très préoccupés, a déclaré Emmanuel Macron. Orange a présenté ses plus vives excuses. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé ce matin.
Dysfonctionnement que l'on peut qualifier de grave et d'inacceptable. 3 faits ont été relevés par les préfets de la République. Un dans le Morbihan, où une personne serait décédée n'ayant pas pu joindre par sa famille les services de secours à temps et ayant eu une maladie cardiovasculaire. Et 2 autres accidents cardiovasculaires à La Réunion, À ma connaissance, effectivement, les deux personnes sont décédées. Il est encore trop tôt pour pouvoir les imputer directement à cette panne, mais c'est les trois événements que je connais.
Vous avez tenté de joindre les numéros d'urgence. Venez témoigner dans l'émission. Pompiers, soignants, nous vous attendons aussi au standard. C'est dingue, s'énerve Thierry sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On n'est même pas capable d'avoir des lignes de secours sécurisées de nos jours en France.
Merci Laurent. On est avec Geoffrey qui est pompier. Bonjour Geoffrey.
Oui, bonjour Pascal.
Vous vouliez témoigner sur cette panne géante. Vous vouliez témoigner.
Oui, alors moi je prends ça d'un... Alors hier je ne travaillais pas, donc j'ai appris la nouvelle comme tout le monde via les réseaux sociaux. D'ailleurs, je salue quand même le service départemental d'incendie de secours du Nord qui a été hyper actif en communiquant tout de suite le numéro à 10 chiffres.
Geoffrey, je vais vous interrompre tout de suite parce que la liaison n'est pas formidable, pour tout vous dire. Je pense qu'on va essayer d'établir quelque chose de plus clair pour l'auditeur. Virginie est là. Bonjour Virginie, vous êtes infirmière libérale.
Bonjour Pascal. Oui,
à Marseille,
tout à fait.
Votre avis?
Oui. Oh, ben, c'est une honte dans notre pays d'avoir ce genre de choses. Quand on est à l'hôpital, on a un groupe électrogène qui prend le relais si jamais on est en panne d'électricité pour que le chirurgien continue à opérer. Je comprends même pas qu'on n'ait pas pensé plus tôt, dans un pays tel que le nôtre, à prévoir le au cas où.
Non, mais ce qui est intéressant, je vais vous dire ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et je le comprends d'ailleurs, personne n'admet qu'un système puisse ne pas être infaillible. Et c'est très intéressant la réaction des auditeurs et vraiment je la comprends parce que si j'étais moi-même en difficulté médicale et que je n'arrivais pas à joindre le 15 ou le 17, je dirais comme vous, mais c'est inadmissible et c'est une honte. Parce qu'en fait, on est habitué à ce que l'État réponde ou à ce que la technique réponde. Mais aucun système, Virginie, n'est infaillible. Mais plus personne ne veut entendre cela. Et je le comprends aussi.
Parce qu'aucun système n'est infaillible, il y a un moment donné où il faut se dire qu'il faut des sauvegardes derrière. Dans un hôpital, on sait très bien que l'électricité, ça arrive, des pannes d'électricité, on met des groupes électrogènes dans les hôpitaux.
Alors là, je ne sais pas techniquement...
Là où ça ne doit pas tomber en panne.
Oui, mais là, techniquement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne tombe pas en panne? J'imagine que maintenant, ça va être la question des prochains jours.
Ben, moi, j'ai été particulièrement étonnée de me dire, tiens, c'est un opérateur... Alors, c'est vrai, à l'époque, à la grande époque, c'était France Télécom. C'était notre opérateur et il prenait en charge tous les numéros publics. C'est passé Orange. Orange a récupéré tous les numéros publics. Il n'y a pas possibilité d'avoir éventuellement deux opérateurs. S'il y en a un qui est défaillant, l'autre prend le relais comme une sorte de groupe électrogène d'opérateurs. Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on nous met en place un numéro de téléphone, si on n'arrive pas à les joindre, on joint un autre numéro à côté? Bon, il faut qu'on trouve une solution pour plus que ça se reproduise, parce que comme disait une de vos auditrices tout à l'heure, c'est que malheureusement, on n'a pas les chiffres de ce que ça a donné derrière.
Mais vous savez, vous êtes plus jeune que moi, mais... Quand j'étais enfant, quoi, pas enfant d'ailleurs, parce que je suis en train de vérifier, c'était en 1978, il y a eu une panne géante, c'était le 19 décembre 1978 en France. Une panne géante sur toute la France. C'est-à-dire qu'en début de soirée, la France s'est arrêtée. Il n'y avait plus rien qui ne marchait. Plus rien. Plus de télé, plus de lumière, plus de rien. Vous imaginez aujourd'hui cela? Mais aujourd'hui, les gouvernements sauteraient, les gens seraient dans la rue, etc. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus cela. Parce qu'en fait, tout fonctionne, tout marche, Virginie. Et quand quelque chose ne marche pas, ben, on est surpris.
C'est ce que je dis. La technologie, c'est magnifique, oui. C'est très beau, ça facilite la vie, tant que ça marche. Mais le jour où ça ne marche plus, ben, c'est une galère sans nom.
Merci en tout cas Virginie, parce que ça, il va avoir évidemment des conséquences importantes. Est-ce que Geoffrey, qui est notre ami pompier de Valenciennes, est-ce que la liaison est meilleure, Geoffrey?
Oui, Pascal.
Ah ben bah là, elle est bien, on vous entend parfaitement là, on vous entend parfaitement.
C'est super parce que du coup, ce que je vais dire va rejoindre un petit peu ce que vient de dire votre auditrice. Effectivement, c'était France Télécom. Donc ça, c'est le pouvoir de la privatisation, hein, qui était une des directives européennes de la privatisation de France Télécom. Donc à force de faire du moins faire pour les bénéficiaires des lignes de téléphoniques, pour augmenter les bénéfices de nos chers actionnaires, ben, à force, on se retrouve dans des situations qui sont catastrophiques. Et donc ça, ben, voilà, c'est le monde de la privatisation. Je voulais juste faire un petit aparté. On a le service départemental d'incendie et de secours du Nord qui a réagi très très vite en permettant de diffuser le numéro de 10 chiffres pour que les services d'urgence soient joignables rapidement. Donc il y a une véritable réactivité du service public dans le Nord, en tout cas à ce niveau-là. Et maintenant, de faire le procès d'Orange sur un problème technique, je pense qu'on n'est pas personne ici qui écoute la radio, enfin, ou du moins sur le plateau, mais en capacité de pouvoir juger de l'erreur technique ou de la défaillance qu'il y a eu, parce que on connaît pas ce métier, on sait pas d'où ça vient, on n'en sait rien du tout. Mmh. Et de faire le procès tout de suite d'Orange, je pense que c'est un peu prématuré.
Bah, oui, mais là encore, c'est des réflexes qu'on a aujourd'hui. On a un problème, il faut un coupable. Immédiatement, et un coupable médiatique. Et comme ça s'emballe très vite, j'ai vu que Stéphane Richard, le PDG d'Orange, était immédiatement reçu par le ministre de l'Intérieur, je crois, ce matin, et il va intervenir dans le journal de 13h de TF1. Donc il va très certainement donner des explications. Mais là aussi, on voit... C'est intéressant comment réagit la société médiatique aujourd'hui. Il y a un souci, le PDG est immédiatement convoqué. Et ce qui est normal d'ailleurs, c'est la responsabilité. En revanche, la grande panne de 78, je vous disais que c'était le soir, et comme quoi il faut faire attention aux souvenirs, c'est le matin, donc c'est exact le contraire. C'est à 8h27, là j'ai retrouvé un papier du Républicain Lorrain datant du 20 décembre 1978. Ah ouais. C'est à 8h27 hier matin qu'une grande partie de la France s'est trouvée brusquement privée d'électricité. Les appareils de chauffage se sont arrêtés, les lumières se sont éteintes, les rames de métro ont été immobilisées, parfois entre deux stations, les trains ont stoppé et les ascenseurs se sont bloqués. Donc toute la France a été privée d'électricité. Vous imaginez ça aujourd'hui ?
Eh ben, il y a quelque chose qui est très drôle, Pascal, c'est que c'est là où on se rend compte que le maillage au niveau de la fonction publique est très important en France. Et malgré ça, on continue à avoir des gouvernements et des partis politiques qui cherchent à faire des découpes dans le budget de la fonction publique. Donc, et là, on se rend compte que la fonction publique, elle a toute son importance sur le.
Bah oui, mais en l'espace là, Orange est un opérateur privé.
Oui. Anciennement, France Télécom, la privatisation, merci l'Europe.
Oh, Geoffrey, là, c'est un peu...
Non, mais on en est là, demain, aujourd'hui.
Non, mais Geoffrey...
Non, mais on peut revenir sur autre chose, mais dès que ça coûte de la... dès que c'est la fonction publique, on a l'impression que ça coûte de l'argent, et dès que c'est revendu à des privés, à des actionnaires, ça leur amène des dividendes monstrueuses. Donc on se demande si, en fin de compte, ça coûtait vraiment de l'argent ou si on a préféré faire plaisir aux copains.
Non, c'est pas ça. C'est peut-être pas au public de payer ou au service public de payer certains services. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui peuvent être externalisés et privatisés, c'est tout.
Mais tout,
c'est ça
tout
la
peut
question.
Être externalisé, mais comme les concessions hydrauliques qui servent à refroidir les centrales nucléaires, comme nos lignes de chemin de fer, comme demain ça sera les pompiers, demain ça sera l'hôpital, on peut tout privatiser.
Mais d'abord il y a des hôpitaux qui sont privés.
Et on arrive au système américain qui est en...
Il y a des hôpitaux qui sont privés, mais après c'est un choix de société. Mais Geoffrey, vous avez raison, c'est un choix de société. Et vous avez raison, et les deux peuvent s'entendre. Merci en tout cas, Geoffrey.
Merci beaucoup, Pascal. Je vous souhaite une bonne journée.
C'est gentil. En tout cas, les pompiers, ils ne seront sans doute pas privatisés. Et c'est une bonne chose. 13h18.
Vous êtes sûr que la panne, c'était pas en 1995, un après-midi ?
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que vous commencez par dire que c'est le soir, puis le matin.
Mais voilà, c'est des attaques personnelles.
Non, oui, gratuites.
La grande panne, elle était à 1978, mais je m'en souviens assez précisément, 8h27 le matin. Ouais. On partait à l'école dans le froid, et tout d'un coup, là !
Assez précisément grâce à Internet.
Exactement. Ouais. Mais c'est fou, une panne d'électricité.
Incroyable cette mémoire.
Mais je suis sûr que vous pouvez peut-être retrouver ça dans les archives d'RTL, hein, si vous avez le temps plutôt que...
Ah bah là j'ai le temps, oui bien sûr.
Plutôt que de m'attaquer, essayez de fouiller dans les archives d'RTL, monsieur Caranoni. Il y a longtemps qu'on n'a pas écouté de musique, je vous signale. Je ne sais pas pourquoi, vous ne voulez plus nous mettre de la musique. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes toujours sur ce sujet de la panne, non pas d'électricité, mais la panne du serveur Orange. On n'a pas pu joindre hier les 15, 17, 18 et 112. On va peut-être écouter le PDG de Orange, Stéphane Richard, qui s'est exprimé il y a quelques secondes au micro de TF1.
Mes premiers mots sont pour présenter les excuses d'Orange. aux personnes qui ont été victimes de ce dysfonctionnement, mais aussi à tous nos partenaires pour ces numéros d'urgence. Je pense aux pompiers, aux SAMU, aux hôpitaux. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, tout est redevenu normal. Il se trouve que pour une raison que nous ne connaissons pas au moment où nous parlons, et croyez-moi,
j'imagine que vous la cherchez.
Toutes nos équipes sont en investigation poussée pour essayer de comprendre exactement la cause racine de ce dysfonctionnement, pour une raison donc que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui peut être une opération de maintenance, a priori pas, qui n'est sans doute pas, certainement pas, une attaque. Nous n'avons aucun signe qui nous permette de penser qu'il pourrait s'agir d'une attaque externe. C'est plus probablement une défaillance logicielle dans ces équipements critiques de réseau. Elles ont touché l'intégralité des 6 sites en même temps. Ça n'est jamais arrivé. C'est un incident effectivement grave, c'est clair, rarissime. C'est un dysfonctionnement majeur, certes, mais entre 16h et 22h hier, 22h, le trafic est progressivement redevenu normal. 8 appels sur 10 depuis un mobile vers les numéros d'urgence a pu aboutir, 8 appels sur 10, et 9 appels sur 10 depuis un téléphone fixe. Donc il ne s'agit pas du tout d'une coupure totale ou d'une panne géante comme celle qu'on a connue il y a quelques années, en 2012, sur le réseau mobile.
Bon, voilà les explications de Stéphane Richard, PDG d'Orange. Moi, je retiens une chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi. On sait ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est intéressant. Il a écarté l'hypothèse de l'attaque. Il l'a écarté à 13h aujourd'hui. Peut-être qu'en poussant des investigations, tout est possible. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être là. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire et qu'est-ce que vous avez pensé des explications de Stéphane Richard ?
Je pense qu'il est honnête, ça peut arriver. Et pour tout vous avouer, j'étais dans la voiture et quand j'entendais vos auditeurs avant, j'ai bondi dans mon siège de voiture et j'ai dit non, faut que j'appelle. Autant je suis désolé s'il y a eu des drames parce que c'est vraiment pas logique, on va dire, et peut-être pas voulu, mais on est quand même devenu une civilisation de sales gosses et d'enfants gâtés, quoi, qui n'acceptent pas la moindre panne, le moindre grain de sable dans notre petite vie pépère et bien rangée. Et ça devient vraiment pénible. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une grève de bus, et je prenais mes jambes et je marchais. Enfin, j'allais pas passer mon temps à vociférer, et il n'y avait pas les réseaux sociaux pour se plaindre. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait des êtres soi-disant intelligents, on s'adapte. Voilà. Donc quand il y a une panne, quelle qu'elle soit, et il l'a dit, 8 sur 10 des appels mobiles ont abouti, 9 sur 10 ont abouti en fixe. Alors oui, il y a eu des drames, très certainement. Mais
il y en aurait eu 2 ou 3 personnes qui peut-être... Oui, j'entends bien, mais... Alors en même temps, je disais un peu ce que vous disiez tout à l'heure, donc je peux difficilement dire le contraire maintenant, mais si vous appartenez à la famille de celui ou de celle qui est peut-être décédé ces dernières heures parce qu'il n'a pas joint les services d'urgence, peut-être ne penseriez-vous pas de la même manière ?
Certainement, et au même titre que demain je me retrouve dans une ambulance et ça m'est arrivé il y a 3 semaines avec un petit incident, si l'ambulance était tombée en panne, est-ce que je vais incriminer le mec qui n'a pas fait la maintenance sur l'ambulance parce qu'on est tombé en panne au bord de la route et que voilà. Enfin, en fait, si vous voulez, on pourrait prendre des exemples pour tout et il peut y avoir à un moment donné une défaillance pour tout, un appareil à l'hôpital qui est défaillant, qui ne relève pas les bons taux, les machins. Et quand est-ce qu'on accepte l'erreur technique ou l'erreur peut-être pas humaine, mais quand est-ce qu'on peut avoir un peu de jugeote en se disant que le 100% sans risque, ça n'existe pas.
Mais bien
pas.
Sûr, il n'y a pas et de système sans risque, bien sûr.
Des voitures, des machins, ça n'existera pas.
Mais c'est une réflexion, effectivement, qu'on peut avoir sur nos sociétés aujourd'hui. On va marquer une nouvelle pause et peut-être revenir avec un dernier auditeur sur ce sujet. Ensuite, on parlera de cette question qui n'est pas facile, parce que en fait, la question elle est posée aujourd'hui pour les ados, mais elle va être posée pour les enfants après. Donc, est-ce que vous avez envie de faire vacciner votre enfant, sachant que votre enfant, il y a peu de probabilités qu'il contracte la maladie, puisque la maladie ne touche pas les enfants, ou les touche peu. Mais en même temps, il n'est pas tout seul, cet enfant. Il peut transmettre la maladie, et c'est une manière peut-être de lui expliquer ce qu'est la solidarité, le vivre ensemble pour le coup. Voilà une question intéressante, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. RTL
Roland Garros 2021.
Notre ami Gauthier de Lombugar est en Roland-Garros et je suis en train de regarder les images de Roland-Garros et j'ai très peur, Gauthier, que Gaël Monfils ne soit blessé. Gauthier de Lombugar ?
Oui, effectivement, on est très inquiet pour
lui. J'ai l'impression qu'il est blessé. Hein.
Oui, on est très inquiet pour lui parce qu'il boitille sur le terrain, il grimace, il a du mal à courir. Et il est rentré au vestiaire pendant quelques minutes tout à l'heure pour se faire soigner. On ne sait pas si c'est la cheville, si c'est au niveau de la jambe, mais le Français a perdu le premier set 6-0. Il n'a même pas inscrit un seul jeu. Et là, dans le deuxième set, il a réussi à breaker lors du premier jeu. Et là, il mène 40-30 dans ce second jeu. Écoutez, on va voir si le Français est capable de tenir tout au long de ce match. Il pourrait peut-être abandonner. À noter qu'il y a eu un abandon tout à l'heure chez les filles. La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, l'Australienne victorieuse ici en 2019. A dû abandonner à cause d'une blessure.
Mais nous sommes d'accord, Gauthier, que c'est l'avant-dernier Français en lice, Gaël Monfils, et que Gasquet va jouer contre Nadal ensuite. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver face à une situation peut-être parfaitement inédite, c'est-à-dire que dès le jeudi, puisque nous sommes jeudi de la première semaine, aucun Français...
C'est jamais arrivé.
Non.
En tout cas, depuis qu'on utilise ces statistiques-là, depuis le début de l'Open, ça n'est jamais arrivé.
Non, mais c'est terrible.
C'est une hécatombe.
C'est terrible. Il est 13h32.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, faut-il faire vacciner ces adolescents ? Voilà un sujet qui n'est pas simple à régler. On va être avec Cédric. Bonjour Cédric. Vous avez un grand-fils de 17 ans, donc oui. Il flirte avec l'âge adulte, parce que en fait c'est de 12 à 18 ans et c'est pas la même chose d'avoir un ado de 12 ans qu'un ado de 18. Quelle est votre position?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
En fait moi je suis un peu partagé sur la vaccination pour les ados et donc pour mon fils, parce que quand on regarde un peu les statistiques, dans sa tranche d'âge, le risque d'avoir le Covid et d'avoir un Covid grave et d'avoir des séquelles, c'est quasi nul, en fait. Donc, je suis vraiment partagé sur le fait que lui se fasse vacciner. S'il se les vaccinait, ça serait vraiment que dans l'intérêt collectif, quoi. Hein, on écoute un peu les médecins ou quoi, ils disent que, bon, pour arriver à une immunité collective, il faudrait avoir 90% des gens qui soient vaccinés. Entre guillemets, il faudrait que nos adolescents, enfants, adolescents, soient aussi vaccinés, parce que c'est une part non négligeable de la population. Mais je suis honnêtement partagé.
Ben oui, mais moi je suis un peu comme vous. Alors, il se trouve que je n'ai plus de jeunes adultes ou d'adolescents chez moi. Mais si j'avais un enfant de 12 ans, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Christelle Robière, qu'est-ce que je fais ? Sachant que, comme vous le dites, la probabilité qu'il contracte le virus, qu'il développe la maladie plus exactement, et qu'il la développe d'une manière grave, alors là c'est infime, hein, et même qu'il la développe, c'est je crois que Sophie Orange disait ça représente 1% de ceux qui ont la maladie de ceux qui ont eu la maladie, ce sont les plus jeunes.
Donc oui, voilà. Et bon, après on en parlait j'en parlais avec lui justement.
Il est près de vous d'ailleurs, je crois, votre fils de 17 ans.
Oui, il est à côté de moi là.
Et lui, il a envie de se faire vacciner ou pas? On va lui poser la question, Cédric.
Je vous le passe.
Exactement. Passez-le nous.
Bonjour.
Bonjour. Comment vous appelez-vous?
Thomas.
Donc vous avez 17 ans?
C'est ça.
Vous êtes en première, en terminale?
En terminale.
Bon. Est-ce que vous avez envie de vous faire vacciner?
Franchement, personnellement, oui. Mais dans les médias, non. Parce que je trouve que si je le fais, dans les médias, déjà, moi, j'ai le bac qui arrive. Donc, dans le cas où je peux développer une forme grave du Covid ou, après la vaccination, avoir des effets secondaires, je préfère ne pas le faire directement. Mais vu ma pratique sportive, je pense le faire d'ici l'été, comme quand je fais mon sport, du vélo. On est quand même vraiment beaucoup sur place. On est plus de 150. Et donc, dans l'intérêt collectif, c'est vraiment presque logique, en fait, de le faire pour se protéger entre nous. et entre coureurs. Donc oui, je pense que c'est quand même utile de le faire, même si je suis jeune.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est responsable, effectivement, vous faites du sport, vous croisez vos amis et vous avez un risque de le transmettre. Vous n'avez pas d'appréhension particulière sur le vaccin?
Non, c'est ça, non, je suis en bonne santé, donc je pense que je suis prêt. Après, voilà, ça ne sert à rien de m'avancer sur certaines choses que je ne connais pas, peut-être, mais le vaccin, c'est comme tout, c'est comme celui contre la grippe. Je pense que, voilà, les médecins, faut quand même en bonne capacité et devront donc gérer leur recherche. Donc je pense que non.
Vous avez le sentiment d'être représentatif de vos amis, qu'ils sont sur la même longueur d'onde que vous, ou est-ce que vous observez des réticences?
Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mes amis ne sont pas tous du même avec moi, parce que certains l'ont déjà fait, le vaccin, et d'autres ne sont pas du tout en accord et ne veulent pas le faire. Pourquoi certains disent qu'il ne sert à rien, et d'autres qui le font donc... préfèrent le faire soit pour leurs parents, pour leur entourage, pour leur famille, ou même pour eux, car eux, des fois, sont diabétiques ou autres. Et au sein de mon entourage, les avis sont vraiment très changeants.
Merci Cédric de votre témoignage. Je résume, il y a le bac. Vous ne faites pas le vaccin pendant la période du bac, mais à l'issue du bac, vous faites le vaccin.
Oui.
C'est ce qui va se passer. C'est quand la fin du bac?
La fin du bac se termine du coup au rattrapage le 6 juillet.
Vous n'allez pas l'avoir au rattrapage?
Non. Mais il se finit donc ici le 25 juin.
Alors je vous ai appelé Cédric. Cédric, c'est votre père et vous, c'est Thomas, bien évidemment.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc évidemment, vous allez l'avoir avant le rattrapage. Merci Cédric, bon courage, bonne chance. Et vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là pour le bac?
Oui.
Merci.
C'est vrai que c'est une question qui est difficile.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'à la radio, quand vous posez une question qui apporte une réponse par un silence, c'est un peu complexe.
C'est pas faux. 13h38, mon fils est en très grande difficulté à Roland-Garros, mais il est toujours sur le court, même si on a le sentiment qu'il est blessé. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud
et Laurent Tessier.
C'est la question du jour. Allez-vous faire vacciner vos adolescents contre la Covid-19? Emmanuel Macron a fait une annonce hier dans le Lot.
Nous avons décidé, à partir du 15 juin, de commencer à ouvrir la vaccination pour les adolescents, enfin les plus jeunes, et à partir du 15 juin, de permettre aux 12-18 ans d'aller se faire vacciner.
La vaccination se fera sur la base du volontariat avec l'accord des parents. En avez-vous parlé avec vos enfants? Doivent-ils pour vous se faire vacciner? Eh bien, il n'y a pas d'urgence pour le professeur Gilbert Deray.
C'est pas les 12-18 ans la priorité. La priorité reste les adultes. On rappelle qu'il y a un peu moins de 25% des Français de plus de 18 ans qui ont eu leurs deux doses. Et donc, il faut d'abord qu'on monte considérablement ce chiffre et que la priorité des doses vaccinales disponibles, ou d'ailleurs des gens disponibles pour injecter, doit être pour l'adulte.
J'avoue, nous dit Morgane sur la page Facebook de l'émission, que je me pose vraiment la question, mon fils a 14 ans. Honnêtement, je ne sais pas, je m'interroge comme vous, Pascal. Karine a un ado de 15 ans, il souhaite se faire vacciner. Nous n'avons même pas parlé ensemble. C'est pour lui un moyen de participer à la protection, d'arriver à cette immunité collective.
Et pendant que vous me parliez, Greg Caranoni a une question intéressante à poser, Greg.
Je disais, quelle est la différence entre vacciner un adolescent contre la Covid par rapport à des enfants qu'on vaccine contre le tétanos? Vous voyez ce que je veux dire?
La question, on y a répondu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un jeune enfant ou un jeune adolescent, a priori, ne contracte pas la maladie. Il peut être asymptomatique, mais il ne la développe pas. Alors que le tétanos, il va la développer. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que vous allez vacciner votre enfant alors qu'il a peu de chances de contracter la maladie. Mais en revanche, il peut la transmettre.
C'est une question de temps, puisque l'adolescent est un adulte en devenir.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si on ne vaccine pas un adolescent, il sera vacciné plus tard en tant qu'adulte, s'il le souhaite.
Oui, mais on peut imaginer que dans 5 ans, cette maladie sera éradiquée, ou en tout cas, on peut l'imaginer. Mais la question que vous posez est vraiment intéressante. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être appeler un médecin. Et qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il faut vacciner tous les enfants? Est-ce qu'il faut arriver à cette immunité collective dont on parle régulièrement? Frédéric est là. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Votre sentiment, est-ce que vous avez chez vous des jeunes enfants?
Oui, j'ai un fils de 11 ans.
Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que vous allez le faire vacciner?
Non, non. Bah, pour la simple et bonne raison, comme vous l'avez dit, le vaccin n'empêche pas d'être porteur de la maladie et de la transmettre. Il atténue juste les symptômes, on est bien d'accord.
Bah, a priori, oui.
Donc, puisque les jeunes enfants...
Quoi, il atténue aussi la transmission. C'est-à-dire que si tu es vacciné, a priori, tu transmets moins, parce que la charge virale, si j'ai bien compris, est moins forte que lorsque tu n'es pas vacciné. Si j'ai bien tout compris. Hein.
Oui, oui, mais il y a des choses qui sont quand même incompréhensibles. Moi, je me suis fait vacciner il y a quelques temps. Donc, j'ai eu le vaccin Johnson.
Allô ?
Allô, oui ?
Oui, que vous dites ?
Oui, j'ai eu le vaccin Johnson. Ouais. Donc, c'est une seule injection. Et là, je pars en Sicile au mois de juin. Et on m'impose de faire un test PCR pour l'aller et pour le retour.
Qui vous l'impose ?
Bah, les compagnies aériennes.
C'est-à-dire que le vaccin ne suffit pas ?
Bah, voilà.
Mmh. Bah oui, c'est la règle.
Donc, pourquoi faire vacciner des enfants qui ont très peu de chances de développer la maladie et qui peuvent quand même la transmettre?
Ils la transmettront moins s'ils sont vaccinés.
Oui, ça c'est ce qu'on nous dit pour le moment.
Bah, ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on dit. Il y a a priori des études, c'est ce que disent les médecins. C'est ce que disent les scientifiques. Ouais. C'est un rapport au monde. C'est-à-dire que votre enfant, il apprend à ce moment-là qu'il n'est pas seul au monde, qu'il est un maillon d'une chaîne où tout le sort des uns et des autres est lié ensemble et que c'est une forme de solidarité. Enfin, vous comprenez autant, le raisonnement.
Autant tous les autres vaccins qui sont obligatoires ont fait leurs preuves, et on sait très bien que, comme vous le disiez, la polio, si vous êtes vacciné contre la polio, non seulement on ne pourrait pas l'avoir, mais on ne pourrait pas la transmettre. Mais là, avec le coronavirus, ce n'est pas du tout le cas.
Vous connaissez toutes les réponses possibles, Frédéric. Je vais pas argumenter moi-même, parce que je vous donnerai des arguments forcément qui sont dans l'espace public, que vous connaissez. Et moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale ou pour vous inciter à prendre un avis. Ce qui est intéressant, c'est votre avis, en fait. C'est pour ça que ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est votre avis. Voilà. Donc vous avez forcément raison pour vous. Vous pensez qu'il faut faire comme ça.
Moi, je me suis fait vacciner. Bon, j'étais pas pour me faire vacciner. Bon, je l'ai fait simplement pour pouvoir voyager. Et puis donc, en fait, il s'avère que si je ne l'avais pas fait, je serais quand même soumis au même test. Et oui, éventuellement, ça me protège pour des cas graves du Covid.
En plus, vous avez 56 ans, donc on commence à être dans un âge, non pas à risque, mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes vous avez un poids de forme ou pas, mais tous ces facteurs-là jouent.
Non, mais au niveau santé, je touche du bois.
Et tout va bien, écoutez, tant mieux.
Tout va bien, le problème aussi, c'est qu'on entend tellement de choses.
C'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Merci Frédéric, en tout cas, vous nous avez donné votre réponse et c'est ça qui nous importe. Marilyn sera là après la pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Nous vous attendons après 14h sur d'autres sujets.
Ah là, vous me faites plaisir. Je dis bravo.
J'en suis ravi. Où allez-vous partir cet été ? Emmanuel Macron en a parlé.
Je sais pas, moi. Vous allez où ?
Loire-Atlantique.
Ouais, je sais pas.
Oui,
je vais. Non, vous avez raison. Je vais, quoi qu'il arrive, un peu à la boule.
Fort bien.
Mais après, il faut aller autre part, peut-être.
Eh bien, vous répondez à Emmanuel Macron.
Les vacances seront possibles cet été. Voilà. Et donc, de pouvoir engager les réservations, de pouvoir vous organiser pour passer les vacances cet été. Et en particulier, j'ai envie de dire, en 2021, Les vacances, c'est en France.
Eh bien, ce sera le cas pour
Nadine. Il a fait un tweet, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Randonnée avec les enfants, vacances à la maison en Charente pour Thierry. Alors, certainement pas en France, hein, s'énerve Gildas sur nos réseaux sociaux. Les commerçants vont augmenter leurs prix. Et vous, quels sont vos projets? 32-10. Qu'avez-vous pensé du retour de Karim Benzema chez les Bleus hier soir? La France a battu 3-0 le Pays de Galles en match de préparation. Plusieurs occasions de but pour l'attaquant français. Malheureusement, un pénalty manqué.
Il s'élance, il frappe, il est arrêté sur son côté droit. Parfait arrêt. Il était bien placé, mais pas suffisamment puissant, ce pénalty de Karim Benzema, qui n'a donc plus marqué en bleu depuis 26 minutes.
Vous pourrez agir à la prestation de Karim Benzema et des Bleus hier soir.
Marilyn est avec nous. Bonjour Marilyn, vous avez un garçon de 16 ans.
Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Trois enfants.
Et vous avez un garçon de 16 ans et vous avez également une fille de 12 ans.
Qui va avoir 12 ans à la rentrée, oui.
Qui va être vacciné et qui ne le sera pas?
Alors, mon fils a été très demandeur quand on a pu se faire vacciner, parce que je suis moi-même vaccinée ainsi que mon époux. Et il n'arrêtait pas de nous répéter qu'on avait beaucoup de chance de pouvoir se faire vacciner. Et je pense que je le ferai vacciner à la rentrée, au mois de septembre, parce qu'il est demandeur et qu'il a très envie et qu'on est plutôt pour, on est à l'écoute. Alors, on n'a pas peur le fait qu'il attrape le Covid. En revanche, je suis persuadée qu'il peut le retransmettre parce qu'on a eu beaucoup de cas autour de nous dans la même tranche d'âge que mon fils qui était plutôt asymptomatique. Et donc, on a plutôt peur, et lui aussi, de ça, de retransmettre la maladie pour tous ceux qui ne seront pas encore vaccinés et l'entourage et la famille autour de nous qui ne le sont pas. Donc, nous, on est plutôt pour et lui est demandeur.
D'accord. Et votre fille de 12 ans?
Alors, par contre, je ne la ferai pas vacciner. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je ne la ferai pas vacciner parce que je trouve que c'est encore trop petit. Et puis, c'est pas, ils n'ont pas, enfin, à 12 ans, à part école, maison, et voir une copine de temps en temps le week-end, et elle reste à la maison parce qu'elle est encore petite, elle ne sort pas. Mon fils de 16 ans a une vie sociale, donc il voit des amis, il sort, a tendance maintenant à être l'été arrive, à bouger, à voir des copains et des copines le soir. Alors que ma fille de 12 ans, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc,
mais en même temps, elle va à l'école. Alors, Marilyn, Jean-Paul Hamon nous écoute. Je le salue. Bonjour, monsieur Hamon.
Bonjour.
Chacun vous connaît, vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Marilyn, que vous écoutez, a donc deux enfants qui pourraient se faire vacciner. Le garçon de 16 ans, elle le vaccine. Et la fille de 12 ans, pour les raisons qu'elle vient d'expliquer, elle ne vaccine pas. Quel est votre avis?
Oui, je comprends les réticences des parents hein, qui s'interrogent devant les vaccins. C'est normal, mais en même temps, on sait quand même, Pfizer avait fait une étude sur plus de 1000 enfants. Et Moderna est en train de faire une étude avec davantage de gamins en plus. Et les enfants ont une réponse vaccinale qui est exceptionnelle. Hein, c'est efficace à 100%. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est que maintenant, on sait depuis le variant anglais que les enfants peuvent être contaminants. À la première vague, on disait que les enfants étaient très peu porteurs et très peu contaminants. Là, maintenant, on sait que les enfants sont contaminants. Donc, c'est important de vacciner cette tranche de population. Il n'y a absolument aucun risque de vaccination, pas plus qu'avec tous les autres vaccins. Il y en a même encore moins parce qu'il n'y a aucun adjuvant. Et donc, il faut absolument vacciner les enfants parce qu'il faut qu'on atteigne cette fameuse immunité collective. Et les gamins, c'est quand même une population qui est vraiment très importante. Donc, on ne peut pas se priver. Si on veut atteindre les fameux 90% d'immunité collective, au moins 80% d'immunité collective, il faut qu'on puisse vacciner les adolescents.
Alors, si on est vacciné, Jean-Paul Hamon, est-ce que... Alors, évidemment, a priori, on ne contracte pas la maladie, ou si on la contracte, c'est de manière plus légère. Mais est-ce qu'on est contaminant?
Alors, il y a une étude israélienne qui est relativement récente qui montre que la charge virale chez les gens vaccinés est extrêmement faible. Donc, ils sont très, très, très peu contaminants. Hein, quelqu'un de vacciné peut être Covid positif, mais il sera asymptomatique. Et c'est arrivé récemment à des patients. J'avais un patient obèse qui avait été vacciné. Il y a eu un cluster dans son entreprise. Et il a effectivement, lui, été positif, mais il n'a eu absolument aucun symptôme. Le vaccin l'a complètement protégé.
Alors qu'autrement, il aurait peut-être été en danger. Alors, Marilyn, vous avez écouté M. Hamon. Est-ce que ça vous fait changer votre avis, d'avis? Et puis peut-être avez-vous une question à lui poser?
Alors non, je fais plutôt confiance au corps médical. Je pense que si on nous dit qu'on peut vacciner les 12-18, c'est qu'il y a eu quand même des études et qu'on n'est quand même pas fou à ce point. Et en même temps, bah, c'est sûr, c'est le début. On est là, on ne s'attendait pas à ce que les enfants aussi jeunes soient vaccinés. Mais je le rejoins complètement aussi parce que je vais vous donner un exemple. Je vaccine ma petite donc qui va avoir 12 ans à la rentrée demain contre le papillomavirus. Et je l'ai pas fait pour ma grande à l'époque, il y a une quinzaine d'années, parce que le vaccin venait de sortir et qu'on avait les mêmes a priori qu'aujourd'hui pour le Covid et que tout le monde disait mais c'est trop tôt, les petites filles, c'est beaucoup trop tôt pour elles. Et aujourd'hui, j'ai retourné ma veste, j'y vais demain parce que c'est l'âge où il faut faire vacciner. Donc, je...
Pour la Covid, là, est-ce que vous allez changer d'avis après l'intervention de Monsieur Hamon?
Je vais quand même poser la question à ma fille et à mon mari. Et si je sais que mon mari sera plutôt pour, et si ma fille me dit bah oui maman, bah écoutez, je pense que oui j'irai.
Bah merci Marilyn, merci Jean-Paul Hamon pour vos précisions.
Mais si vous pouvez dire à votre auditrice que moi aussi j'ai changé d'avis sur le papillomavirus, parce qu'au début je me disais il n'y a que 3 virus dans le vaccin, maintenant il y en a 9, donc il y a quand même une efficacité qui est plus grande. Et maintenant je vaccine, donc si vous voulez, il n'y a pas que vous qui avez changé d'avis, vous savez, on est pas, c'est très bien.
Monsieur Hamon, je ne peux pas vous garder malheureusement parce que vous avez une réunion à 14h.
Voilà, exactement.
Merci. Ah, parce que finalement, vous n'êtes pas qu'à la radio et à la télévision, alors vous avez un vrai métier.
Ah là, je suis dans la voiture, oui, effectivement, je viens de quitter mon cabinet et j'ai une réunion professionnelle.
Bon, ben c'est dommage parce qu'on aime vous avoir, c'est toujours très clair, il y a beaucoup de pédagogie et beaucoup de bienveillance également dans vos conseils. Donc, merci Jean-Paul Hamon, merci beaucoup, merci, allez, bonne journée.
Bonne soirée.
Bonne journée à vous.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. On continuera évidemment la discussion sur le vaccin. Faut-il vacciner les jeunes adolescents ? On sera avec Nathalie dans une seconde, mais Olivier Bois pour le moment.
Et le PDG d'Orange, Stéphane Richard, affirme que la situation est redevenue normale pour les numéros d'urgence, même si des difficultés sont tout de même remontées encore au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vient de s'exprimer au micro de Sébastien Rouxel.
Certaines difficultés ponctuelles, beaucoup moins importantes et assez clairsemées sur le territoire national me sont encore remontées par certains SAMU. Évidemment, nous allons faire un retour d'expérience de tout ce qui s'est passé, d'exiger des explications de la part de l'opérateur téléphonique qui a en la matière une obligation de résultat et chacun peut le comprendre. Nous allons maintenir les numéros d'appel détournés du SAMU vraisemblablement jusqu'à demain et ensuite faire un bilan sanitaire exhaustif de toutes les conséquences humaines qui aurait pu faire suite à cette crise. Nous évoquons 3 à 4 décès enregistrés sur le territoire national à l'heure à laquelle nous parlons. Je ne peux pas dire si c'est exhaustif, évidemment. Et il est trop tôt pour tirer des conclusions, c'est-à-dire pour faire le lien entre cette panne et ces décès. Mais en toute transparence, je communiquerai toutes les données dont je disposerai à l'ensemble des Français.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, au micro de Sébastien Rouxel. Notez-le, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, sera l'invité d'RTL Soir tout à l'heure à 18h15 avec Amandine Bégaud. Stéphane Richard qui a présenté en tout cas ses excuses pour l'incident d'hier. Il a précisé qu'entre les lignes fixes et mobiles, 10 à 20% des appels n'ont pas pu aboutir. Une enquête est en cours. La cause serait un dysfonctionnement des logiciels qui aurait touché plusieurs centres. Rien n'indique en tout cas à ce stade qu'il y ait eu une attaque. L'homme de 24 ans qui a agressé et insulté le livreur à Cergy Pontoise dimanche soir va être jugé cet après-midi en comparution immédiate. Il avait été filmé, il a reconnu les faits en garde à vue. Filmé donc en train de proférer notamment des insultes racistes. Le tennis, ça va mieux pour Gaël Monfils.
RTL.
Roland-Garros 2021.
Gauthier Delon-Bugard, on vous retrouve porte d'Auteuil. Gaël Monfils a eu un petit retard à l'allumage pour son second tour.
Ouais, effectivement, c'est un match très étrange auquel nous assistons sur le cours Suzanne Lenglen, puisque ça va beaucoup mieux. Le Français a retrouvé des jambes et vient de remporter la deuxième manche assez facilement, 6-2. On était très inquiet pour lui puisqu'il était rentré au vestiaire quelques minutes pour se faire soigner après avoir perdu le premier set lourdement, 6-0 face au Suédois Immer. On l'a vu boitiller, se tenir le dos, tenter quelques étirements des lombaires, mais écoutez, pour l'instant, ça tient, et ça tient bien puisqu'il vient de breaker désormais dans le troisième set. À suivre cet après-midi les Françaises Ferro et Mladenovic, et puis ce soir à 21h, Richard Gasquet face au grandissime favori Nadal dans un court Philippe Châtrier complètement vide, sans public en raison du couvre-feu.
Merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard. Un mot du temps de demain pour finir qui restera à l'orage d'abord dans les Hauts-de-France, puis globalement sur le sud-ouest et l'est du pays. Il continuera demain à faire chaud, 13 degrés la minimale sur la Bretagne, entre 19 et 21 degrés partout ailleurs.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et c'est donc la question du jour. Allez-vous faire vacciner vos adolescents contre la Covid-19? Les jeunes de 12 à 18 ans pourront le faire à partir du 15 juin. La vaccination sera sur la base du volontariat et avec l'accord des parents. Nous sommes avec Nathalie qui a donc un enfant en âge de se faire vacciner dans cette tranche d'âge. C'est bien cela, Nathalie?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Oui, il a 17 ans.
17 ans. Ouais. Est-ce qu'il est demandeur?
Il n'est pas demandeur. On a eu le Covid en février. Donc, on a cette latence qui nous permet d'avoir encore un mois et demi pour réfléchir.
Et la réflexion se porte sur quoi?
La réflexion, c'est... Alors, il a fait un Covid asymptomatique. Donc, c'est nous... c'est sûrement le patient zéro de la famille. Hein, c'est sûrement lui qui nous l'a donné. Donc, nous, on a fait une forme... correcte. Sans effet grave, voilà.
Pas d'effet secondaire aujourd'hui?
Non.
Tout est entré dans l'ordre.
Voilà. Moi, dans cette vaccination, ce qui me dérange, c'est que... Même là, dans cette situation aujourd'hui, j'ai écouté le docteur Hamon, mais finalement, il peut y avoir un autre professeur comme le professeur Deray qui va dire une autre version. Donc, on va encore être dans la politique du en même temps. Mais comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle décision sanitaire, en fait, que ça soit les masques, que ça soit avec, on a encore le en même temps. Moi, je me pose la question de... De toute façon, cette décision de vacciner nos enfants, elle ne va pas être en termes sanitaires. On est dans une pure décision civique, de citoyenneté, comme aller voter, en fait. C'est un devoir pour la nation là, qu'on doit faire vacciner nos enfants. Mais si on a un adolescent qui ne présente pas d'ALD, pas un adolescent présentant des comorbidités, l'obésité, un asthme sévère... Non, ils ne sont pas le public le plus concerné. Donc, on est vraiment dans un pur acte citoyen.
C'est vrai.
Et est-ce que je dois accepter de faire vacciner mon enfant de 17 ans, en plus qu'il a eu sans forme sévère, alors que j'entendais sur un autre média hier, il reste encore un pourcentage important des personnes de plus de 75 ans, de plus de 60, qui ont des comorbidités et qui n'y vont pas. Donc, est-ce que j'accepte que ce soit mon fils qui y aille pour les protéger, alors que certains ne le font pas. Voilà.
Vous avez posé parfaitement la question
et
vous n'avez,
moi, quand il faudra,
voilà, vous n'avez pas encore répondu, mais c'est des questions que chaque parent se pose, que chaque famille se pose, et vous le posez parfaitement bien, Nathalie.
Après, je me pose la question quand... c'est vrai, vous avez raison, on parle des vaccins obligatoires en France, la poliomyélite, le tétanos. Et c'est vrai que ces vaccinations sont obligatoires, mais elles sont obligatoires. Est-ce qu'on pourrait rappeler du coup qu'ils sont obligatoires? Ces maladies-là faisaient vraiment des ravages chez dans la petite enfance. Le
bien
pourcentage n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Donc du coup, quand on veut comparer avec ces vaccins-là, je trouve que la comparaison, attention, elle peut être maladroite. C'est pas les mêmes maladies et c'était pas le même impact.
Mais bien évidemment, Nathalie, voilà. Vous l'avez parfaitement résumé. Si vous faites vacciner votre enfant de 17 ans, c'est pas tant pour lui que pour les autres.
Ah non, c'est un acte citoyen.
C'est ça, vous l'avez très bien dit.
Et il faut nous le dire.
Bah ça, tout le monde le comprend.
Voilà.
Tout le monde le comprend. Il n'y a pas d'ambiguïté.
Mais par contre, je pense aussi que, comme vous l'avez dit, Pascal, la prochaine étape, c'est la vaccination des moins de 12.
Sans doute.
Parce que pour arriver à l'immunité collective, du coup, le gouvernement voit bien que la population adulte, le pourcentage nécessaire n'y va pas. Donc maintenant, on descend. Dans les adolescents, on voit bien, vu vos témoignages aujourd'hui, on ne va pas tous faire vacciner nos adolescents. Donc si le pourcentage n'est pas atteint, on descendra à nouveau encore la barrière.
Merci Nathalie, vous étiez la dernière auditrice sur les vaccins. Nous allons parler
Merci.
Des vacances. Vous partez en vacances cette année, Nathalie? Nathalie est partie.
Elle est partie déjà, oui.
Elle est peut-être en vacances.
Non, mince, on a de la mémoire.
Où est-ce que vous partez en vacances? Le président a dit les vacances c'est en France. Donc vous allez nous dire où vous partez en vacances. Est-ce que vous avez déjà réservé quelque chose? C'est compliqué de la réservation. On ne sait même pas si tout sera ouvert. J'adore cette chanson, c'est curieux. Hein,
non, c'est frais.
Ouais, je l'adore. La pause, amis.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vacances. Marion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'un hôtel en Savoie.
Oui.
Bon, donc vous êtes contente, les vacances arrivent, l'hôtel va être plein.
Oui.
Bah, les faire. Réservations, j'imagine. Est-ce que les réservations sont faites?
Non.
Pourquoi?
Ben, nous, on est en montagne et en montagne, il y a différents types de clientèle et ça fonctionne beaucoup en dernière minute, suivant le temps qu'il fait. Parce que s'il fait chaud, on vient chercher un petit peu le frais en montagne. Si, voilà, donc du coup, nous, c'est plus simple d'ici 15 jours que ça va se commencer vraiment.
Mais il y a une clientèle quand même pour les vacances en montagne l'été.
Ah oui, il y a du monde. Hein, ça. En plus, hein, la montagne devient très attractive. Il y a des plans d'eau, il y a des choses qui sont mises en place.
Donc, a priori, vous serez complet tout l'été?
Complet, je pense pas.
Il y a combien de chambres?
27.
Et vous pensez qu'il y aura des chambres de libre tous les soirs?
Ah oui, bien sûr.
Ah bon. Ouais.
Bah, en plus, je pense que l'hôtellerie, là, depuis l'année dernière, fait un peu peur. Mmh. Au sens où les gens ont peut-être un peu peur de se retrouver tous ensemble. Et la tendance, on l'a vu aussi cet hiver sur la station. Les gens ont cherché des appartements, cherché des résidences où ils pouvaient se retrouver entre eux, mais pas forcément se mélanger.
Bah écoutez Marion, le moral est bon quand même.
On fait, de toute façon, ça ne changera pas.
Là, vous êtes ouvert en ce moment ?
Pas encore.
Vous ouvrez quand ?
D'ici 3 semaines.
Pas avant ?
Ouais. Nous, on est en montagne et à cette période, ce n'est pas les vacances. Il n'y a pas... Il y a personne, soyons clairs. Donc non,
effectivement,
on est pas
ça vaut pas
ouvert.
Le coup d'ouvrir. Merci beaucoup, Marion.
Il y a un seuil de rentabilité à avoir.
Merci beaucoup Marion. Françoise est là, Françoise qui prépare ses vacances. Bonjour Françoise.
Oui. Bonjour Pascal, contente de vous entendre.
Bah écoutez, ça me fait plaisir aussi de vous entendre. Est-ce que vous partez en France comme le recommande Emmanuel Macron?
Non, moi je pars au Portugal comme d'habitude, j'ai pas changé mes habitudes.
Bon, bah écoutez, vous avez forcément raison. Quand vous allez au Portugal, vous allez où?
Eh bien dans l'Algarve.
Et vous prenez un hôtel, vous allez en...
Non, une location.
Et elle est déjà prise, cette location?
Tous les ans, on va dans la même maison, donc il n'y a pas de problème.
Donc vous la renouvelez d'une année sur l'autre?
Oui, parce que maintenant, c'est comme si c'était notre famille.
Ah oui, ça c'est pas mal. Et alors, vous allez combien de temps au Portugal?
Presque 3 mois.
Ah oui, c'est plus des vacances, là vous êtes en retraite peut-être?
Oui.
Oui,
mais avant, j'allais 3 semaines.
Donc vous louez 3 mois?
Voilà, oui.
Mais ça doit être, ça doit pas être donné de louer 3 mois au Portugal.
Ah non, pas du tout. Non, pas cher. Hein. Non.
C'est-à-dire que je peux avoir le prix des 3 mois?
Eh bien, 2100.
2100 euros pour 3 mois?
Oui.
Bah, c'est pas très cher, mais c'est une belle maison.
Ah ben oui. Il y a deux chambres, une grande salle à manger. Il y a tout le confort. C'est à 5 minutes de la plage.
Donc c'est une maison qui fait quoi, 80 mètres carrés?
Oh là, alors demandez-moi pas parce que je ne connais pas. Mais bon, c'est grand. Hein. Il y a une grande véranda où on mange.
S'il y a combien? Il y a deux chambres?
Oui, il y a deux chambres.
Une grande véranda et une grande salon salle à manger, ça, on ne doit pas être loin de 80-100 mètres carrés.
Peut-être. Alors oui, je ne me rends pas bien compte.
Il y a une salle de bain?
Ah, bien sûr, oui.
Non, mais quand je dis il y en a une, mais ma question, c'est est-ce qu'il y en a deux?
Non, il n'y en a qu'une. Non, parce que c'est une...
Je fais Stéphane Plaza. Là.
Ah oui? Non, bon. c'est une maison ancienne. Hein, donc, il n'y a qu'une salle de bain.
Et elle est bien placée. Vous me dites, elle est à 2 minutes de la plage.
Ah ben oui, il y a tous les magasins à côté.
Et tous les prix sont au Portugal dans cette fourchette-là? Parce que ça fait donc 800 euros, même pas 700 euros le mois.
Voilà, oui. Je pense qu'il y a des endroits que c'est plus cher. Hein.
Mais 700 euros. Et vous allez partir quand?
Eh bien, le 6 juillet.
En pleine saison, vous payez 700 euros le mois, ce qui doit faire donc divisé par 4, à peu près 150 euros la semaine.
Attends,
mais ils vous aiment bien, les gens.
vous savez, ça fait plus de... La première fois que j'ai été au Portugal, j'avais 10 ans, et j'en ai 68.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est des prix incroyables. C'est des prix très très bas quand même. Et puis c'est une belle région, l'Algarve.
Oui.
Bah, il fait toujours un temps magnifique. C'est une région du Portugal. C'est en fait, c'est le district du Faro.
Voilà, oui, c'est pas loin. Voilà.
Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, bravo Françoise, faut nous donner le filon, faut nous donner le, la combine.
Bah vous savez, la vie est beaucoup moins chère là-bas. Quand je vois, moi, je vais au marché, que j'achète un kilo d'orange 40 centimes, ben.
Oui, un kilo d'orange ici, c'est un petit peu plus cher que 40 centimes, hein.
Bon, c'est vrai qu'elles sont pas belles parce que c'est les oranges des paysans, mais alors elles sont juteuses, c'est même pas comparé.
Oui, parce que le kilo d'orange à Paris, il est à combien?
Vous en savez rien en ce moment, c'est peut-être pas loin de 2 euros, peut-être, je sais pas, je me rends pas bien compte en ce moment, bah, c'est plus trop la saison.
Je pense que
c'est,
le kilo d'orange, il y a plus de 2 euros, hein, je vous le dis, moi, dans Paris.
Moi je suis en province, donc.
Ouais. À Nevers, c'est peut-être. Ben oui, parce que c'est les gens qui viennent à Paris sont toujours surpris, même les primeurs, etc. Les salades, c'est évidemment, c'est beaucoup plus cher que parfois en province. Vous allez avec qui? Avec votre époux, Françoise?
Non, avec ma maman.
Avec votre maman? Mais à quel âge votre maman?
Ma maman, elle a eu 89 ans, il n'y a pas longtemps, là.
Et vous partez toutes les deux?
Toujours, oui.
Bon, bah écoutez, c'est super, hein, bravo. Bravo Françoise, vous nous enverrez une petite carte postale, vous nous appellerez peut-être.
Ah ben voilà, pourquoi pas, bien sûr.
Vous partez en avion?
Oui.
Donc test PCR?
Eh ben oui, parce que le dernier vaccin, ça va être fin juin, là. Donc
ouais,
on est obligé de faire le test.
Vaccination et test PCR. Merci beaucoup Françoise.
Ah, ça change la vie, peut-être, je sais pas, oui.
Non, je pense que vous serez obligé d'avoir un test. Vous partez quelle compagnie
C'est Transavia.
Transavia, c'est très bien. C'est très bien.
Voilà, normalement, c'est la TAP et la TAP marche avec Transavia.
Transavia, moi, je suis devenu un spécialiste de Transavia. Tu peux choisir ton siège, c'est pas trop cher.
C'est ce qu'on a fait, voilà, oui.
Tu choisis 4 ou 5 mois en avance quand tu es sûr de prendre un avion. Non, mais c'est formidable, Transavia. En plus, c'est
Nous, d'habitude, on réserve au mois de février, mais là, on a attendu au dernier moment.
Merci, Françoise. Merci beaucoup.
Je suis bien contente de vous avoir parlé, parce que je vous écoute tous les jours. Vous êtes super, continuez comme ça. Bah,
Vous êtes gentil, mais moi, je veux bien aller trouver une maison à 150 euros la semaine. Hein. Ça, c'est. Ça, je suis.
Bah, elles ne sont pas toutes comme ça, je pense. Hein,
Écoutez, franchement, votre truc, là, je pense que vous faites envie. Je pense que les gens sont en train d'aller sur Internet pour voir s'il y a des maisons à ce prix-là. Merci, Françoise.
Merci beaucoup, Pascal. Bonne continuation. Prenez bien soin de vous, surtout. Hein.
Vous êtes vraiment gentille. Vraiment gentille. Greg, pourquoi vous avez souri quand j'ai parlé de Transavia?
Non, parce que vous faites une publicité gratuite pour une compagnie aérienne qui est formidable. Non, mais vous avez raison.
Elle est française, autant.
J'ai moi-même pris Transavia, je la prendrai cet été probablement d'ailleurs.
Vous savez quel est l'avantage également de Transavia pour terminer?
Non.
Les avions partent d'Orly.
Pourquoi c'est un avantage? Parce qu'il y a moins de distance par rapport au centre de Paris, par rapport à Roissy. Il faut l'expliquer pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens.
Ah oui, quand vous allez à Roissy, c'est quand même beaucoup plus long. Donc c'est un peu plus confortable, Orly.
Vous avez fait Stéphane Plaza, agent immobilier, formidable. Ouais.
C'est vrai. 14h18, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Vacances.
Sylvie, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez imaginé le programme de cet été des vacances?
Oh oui, depuis quelques mois, parce qu'en fait, j'en ai tellement marre de cette situation qu'il faut que je parte.
Et vous allez où?
À Vannes.
À Vannes, dans le Morbihan?
Tout à fait.
Formidable. Et pourquoi Vannes?
Eh bien, écoutez, parce que déjà, ça fait un petit moment que je voulais aller en Bretagne. Et puis, en cherchant, je suis tombée sur Vannes.
Mais vous n'êtes jamais allée à Vannes?
Jamais.
Ah, ça c'est drôle. Et vous allez avec qui?
Avec mon mari.
Eh bien, vous allez tomber sur une des villes les plus charmantes du Morbihan, avec un certain état d'esprit. Vous êtes proche de l'Orient, vous êtes proche également des plages de l'Atlantique de la Baule, proche de la Vendée. Vous allez rester combien de temps?
Une semaine.
Une semaine.
Voilà. Et on a l'intention de faire les îles, etc. Voilà.
Quelle île vous allez faire? Wédic?
Belle-Île en mer, en premier.
Belle-Île, bien sûr. Formidable.
Voilà, après, il y a Watt, c'est ça, Watt?
L'île de Watt, bien sûr. Voilà, il y a Wedeck, il y a toutes les habitations, ces îles, c'est merveilleux.
Voilà, donc oui, et puis bon, dans les terres, apparemment, on n'est pas très loin non plus de la forêt de Brocéliande, donc...
Oui, c'est vrai, il y a quelques fées qui restent. Vous logerez où, Sylvie?
Dans une maison d'hôtes à Vannes.
C'est très sympa, les maisons d'hôtes. C'est très sympa, c'est très agréable.
Voilà, Voilà, ben en fait, moi, j'aime beaucoup être bien placée en ville. Oui. Parce que le soir, on aime beaucoup aller promener pour aller au restaurant, etc., mais tout faire à pied. Oui. Donc, il faut qu'on soit quand même bien central. Donc là, j'ai trouvé à 5 minutes du port, à 5 minutes de la vieille ville. Enfin, nickel.
Ben, merci beaucoup, Sylvie, de ce témoignage et bonnes vacances à Vannes. Et là encore, vous y allez quand ?
Au mois d'août, début août.
Ah, mais je ne serai plus là, malheureusement. Je ne serai pas à l'antenne au mois d'août, autrement.
On s'est vacciné exprès pour ça, en plus. Ah. Donc, bon, pour être tranquille, et voilà.
Ben, merci beaucoup. Je ne serai pas là au mois d'août, parce qu'autrement, vous aurez appelé pour avoir des nouvelles. Bonne journée en Ardèche, puisque vous habitez l'Ardèche. Oui, et bon voyage à Vannes. Le débrief.
Merci beaucoup.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Vous êtes nombreux à avoir réagi à cette panne chez l'opérateur Orange qui a fortement perturbé les numéros de secours hier soir dans toute la France. Le 15, 17, 18, 112, Latifa, médecin généraliste, a été la première à prendre la parole au standard.
Je suis extrêmement choquée parce que je pensais que notre système reposait sur autre chose qu'une fausse erreur. Ça fait très peur et hop, on a toute la France qui est paralysée. Mais là, quand on a tout qui plante, qu'est-ce qu'on fait ?
Un coup de gueule partagé par Virginie, infirmière libérale à Marseille.
C'est une honte dans notre pays d'avoir ce genre de choses. Quand on est à l'hôpital, on a un groupe électrogène qui prend le relais si jamais on est en panne d'électricité pour que le chirurgien continue à opérer. Je comprends même pas qu'on n'ait pas pensé plus tôt, dans un pays tel que le nôtre, à prévoir le au cas où.
Mais Christophe ne comprend pas toutes ces critiques après ce qu'il s'est passé.
Ça peut arriver et autant je suis désolé s'il y a eu des drames parce que c'est vraiment pas logique, on va dire, et peut-être pas voulu, mais on est quand même devenu une civilisation de sales gosses et d'enfants gâtés, quoi, qui n'acceptent pas la moindre panne, le moindre grain de sable dans notre petite vie pépère et bien rangée.
Et hier soir, mesdames, messieurs, il y avait du...
football.
Oui, victoire de la France 3-0 contre le Pays de Galles en match de préparation de l'Euro. L'événement, c'était bien sûr...
le retour de Karim Benzema.
Karim Benzema qui obtient un pénalty en première mi-temps. Musique football, Greg.
RTL. On refait le match.
Et à ce moment-là, il y avait de la joie sur RTL avec nos amis Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot.
Ah, Karim Benzema. Elle est belle l'histoire, Nicolas.
Bravo, c'est magnifique.
Éric, c'est magnifique.
Mais non, bien sûr qu'elle est belle l'histoire, évidemment.
Ah, c'est elle est belle l'histoire, sauf que quelques secondes plus tard, la joie était de courte durée.
Il s'élance, il frappe, il est arrêté sur son côté droit. Parfait arrêt.
Et là, je peux vous dire énervément d'Eric Silvestro, et ce n'est pas Karim Benzema qui aurait dû le tirer, on ne le tient plus.
Et la prochaine fois, c'est le tireur de pénalty qui tire les pénaux, mais pas là pour faire des cadeaux aux uns et aux autres.
Oui.
Et quand même, Karim Benzema aurait pu marquer un but pour son retour en bleu, Pascal.
C'est terrible.
Ouais, bon, pour vous remonter le moral, parlons des vacances, Emmanuel Macron.
En 2021, les vacances, c'est en France.
Ah, c'est vrai qu'on a envie de se mettre dans l'ambiance des vacances. Une réaction, cher Pascal ?
Ah là, vous me faites plaisir. Là, je dis bravo.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la question de ces prochains jours.
Roland Garros, tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.